Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 621 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes à Paris au bar à vin Nicolas, 31 place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation modérée et responsable, appellation Fronton. On en parlera dans le sud-ouest. Le succès mondial du champagne Lançon, le chef du Cerf de l'Interallier, la maison également Bougrier en appellation Saint-Nicolas de Bourgueil, le vignoble de Jerez, l'actualité mondiale, les vins et spiritueux, puis surtout une grande question, le vin est-il un Picasso comme les autres? La réponse en compagnie notamment d'Aurélie Labruyère, David Cobold et Philippe Forbach. Les artistes, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Aurélie, on commence avec l'agenda du vin, avec la nuit des bulles, mais du côté de Limoux.
Attention, c'est à Limoux que ça se passe, le samedi 3 décembre, pour la 8e année consécutive. 27 établissements se mettront aux couleurs de la bulle en tech et vous proposeront de déguster la blanquette de Limoux, brut réserve, millésimé, méthode ancestrale, le crément de Limoux. Il faut absolument y aller et passer une nuit des bulles extraordinaire avec la maison en tech.
Quand on quitte Limoux, on va à Paris.
Exactement, ce sera un rendez-vous tout nouveau, le rendez-vous des amateurs du bien manger. Le salon s'appelle Vinibio et Bio Gourmet. Il a lieu au Carreau du Temple à Paris du 3 au 5 décembre. 3 jours pendant lesquels vous dégusterez des vins et de l'alimentation bio, évidemment. Dans un contexte décomplexé, festif, pour la première fois, vous retrouverez toutes les informations sur le site salon-vinibio.com. C'est gratuit, allez-y, c'est sympa.
Et ensuite, direction le centre du monde, Perpignan.
Voilà, on va avoir besoin d'une explication de la part de Philippe. Forbrun, qu'est-ce que c'est qu'un ranceau sec du Roussillon? Mais en tout cas, pour les déguster, soyez Birancy le 5 décembre à Perpignan, au Centre d'Art Contemporain, à 100 mètres du centre du bout du monde, c'est le nom du centre. Une manifestation ouverte au public de 10h à 18h pour 5€. Vous goûterez et vous découvrirez les ranceaux secs.
Bon, il faut absolument David Cobold, les ranceaux, ça vous inspire?
Oui, mais ça m'inspire beaucoup.
Ils sont très dynamiques.
J'en ai beaucoup parlé récemment. Suite à la visite, la fête des vendanges, et j'ai goûté beaucoup de vins
à
Bagnols-sur-Mer.
Belle ville aussi.
Est-ce que vous savez pourquoi Salvador Dalí a déclaré que la gare de Perpignan était le centre du monde? Non, parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'à l'époque, c'était sous Franco, il n'y avait pas de journaux libres en Espagne, il devait traverser la frontière pour acheter des journaux. Donc oui. Il achetait ses journaux à la gare de Perpignan.
Génial.
Donc très bien, l'explication est claire sur les ranciaux, David Cobold.
N'est-ce pas?
Aurélie, on quitte Perpignan malheureusement et on va à Genève.
À Genève, c'est bien aussi Genève, c'est très beau. Sur les bords du lac, le mardi 13 décembre, vous êtes conviés au Beau Rivage, au prochain dîner du Wine and Business Club de Genève. Toutes les informations sur winebusinessclub.com, de l'économie, de la gastronomie et des grands crus.
Merci beaucoup Aurélie Labruyère, Philippe Forbach, un commentaire sur l'excellent millésime 1961.
C'est vrai, côté ranciaux, ça donne un côté un petit peu oxydatif, assez vieilli sous bois avec l'oxygénation qui va le donner cette matière particulière. Côté vin plus classique, 61, c'est un grand millésime. Grand millésime. C'est parti des millésimes de légende du XXe siècle. Il faut avouer que d'abord, il y a eu le gel, donc c'est un peu mal commencé. Mais ça a eu comme effet de réduire la récolte et de finalement de donner, grâce à un été et surtout un automne, pendant les vendanges juste extraordinaire, de donner un très grand millésime de concentration, de matière.
Et ça tient toujours, Philippe, aujourd'hui,
et oui, en
2016.
Plus, ça tient toujours en Champagne. Je vois Philippe.
Philippe Béjot, le président du Lançon, qui est parmi nous. Bonjour, Philippe, d'ailleurs.
Bonjour.
Quand
bonjour.
On a la chance d'avoir quelques magnums, notamment de Lançon en 61, on peut faire encore plaisir aujourd'hui. Mais c'est vrai, dans pratiquement toutes les régions, parmi les grands vins que j'ai pu l'occasion de goûter, dans les grands crus, bien sûr, du Bordelais, Palmer 61, par exemple, qui est la légende.
Ça, c'était votre plus grande émotion?
Ça, c'est une grande émotion, peut-être à égalité avec l'Ermitage La Chapelle, dont on parle souvent.
Vous avez une vie difficile, quand même, Philippe.
Voilà, mais globalement, 61, si vous en avez dans la cave, surtout, appelez-nous.
Oui, on vient.
Ne les jetez pas.
On vient récupérer tout.
Avec le tire-bouchon, la ceinture, la boutonnière, enfin, quelque chose qui va faire en sorte qu'on passe un bon moment.
Quelques people qui sont nés en 1961 aux personnalités, Philippe?
Oui, Mylène Farmer, par exemple. Daniela Lombroso, c'était l'année aussi de naissance de Lady Diana, côté fille et côté garçon, Florent Pagny, Nagui, il y en a beaucoup, hein. Eddie Murphy, Axel Boer, Carl Zero, Frédéric Taddeï, Marc Lévy, et puis Barack Obama également.
Qui et vous avez aussi Alain Roumillac ou pas?
Oui, exactement. On a la chance qu'il soit avec
nous.
Mais
oui, c'est notre premier invité qui est né en 61.
Il est là.
Alain Roumillac, le président de Manpower Group France. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous saviez tout ça là sur 61? Vous avez déjà bu un 61 dans votre
vie? Alors oui, absolument. Et effectivement, et je vois que autour de la table, il n'y a que des connaisseurs qui savent que 1961 est une année exceptionnelle, mon année de naissance.
Alors vous êtes ingénieur arts et métiers, également votre premier job, c'était chez IBM. Et vous êtes rentré un peu par hasard, quoi. Vous aviez perdu des CV. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, mon CV c'est perdu. Je voulais faire de l'usine. J'ai fini aux services commerciaux.
Oui, voilà. Alors vous êtes le patron de Manpower France depuis 2012, c'est ça?
Absolument.
Un rappel peut-être sur les quatre grands métiers du groupe. groupe au niveau mondial, le groupe qui réalise un peu plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Son premier marché, c'est la France. On y a réalisé l'an dernier un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Premier métier par lequel on est très connu, le métier du travail temporaire, à peu près 100 000 intérimaires chaque jour chez nos clients. Deuxième métier où on est aussi un des leaders sur le marché, le recrutement de CDD et de CDI pour le compte de nos clients, et avec une très forte demande actuellement sur un marché où il y a une pénurie de beaucoup de compétences. Troisième sujet, des services informatiques, la mise à disposition dans un modèle un peu différent de compétences pour accompagner ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises. Et on a à peu près 4000 personnes aujourd'hui sur ces sujets en France. Et enfin, le dernier sujet, beaucoup d'entreprises ont besoin de se transformer dans un monde qui bouge beaucoup. Et donc, on les accompagne par nos offres de conseils, par nos offres de formation pour aligner leurs compétences avec leur stratégie business.
Et on parle beaucoup d'embellie sur le marché du travail aujourd'hui, Alain, vous confirmez ?
Ben nous, depuis un an et demi, le marché en tout cas du travail temporaire est en croissance, après avoir vécu des années un peu plus difficiles. Donc de la demande qui est liée à l'activité, mais qui est liée aussi à des changements aussi de modèle des entreprises qui utilisent moins de compétences sur la durée et qui font plus appel à nos services. Et puis, je vous l'ai dit, une très forte demande sur du recrutement. Et sur du recrutement qualifié, et c'est plus compliqué bien sûr pour les gens.
Les ressources, quoi.
Et oui, puis c'est par contre c'est plus compliqué pour les gens qui ont peu de qualifications, ouais, de rentrer sur le marché du travail.
2017 avec la présidentielle, c'est chouette pour vous ou pas?
Bah déjà, étant un groupe américain, ce qui est déjà chouette, c'est les élections américaines. Donc j'ai la chance ce soir, après avoir terminé avec vous, de dîner avec notre patron, notre CEO qui est de passage éclair à Paris. Donc on va discuter de ce sujet. Bon, je pense que historiquement, les élections étaient toujours, il y avait toujours un petit creux dans l'activité. J'ai le sentiment que pour les entreprises aujourd'hui, c'est de plus en plus un non-événement.
Donc l'année prochaine, par contre, au niveau des lois ou des fiscalités, on peut avoir des mouvements. Quoi.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas se passer grand-chose normalement avant le mois de mai. Donc après,
on va. Ça va être temps de bosser un peu, quoi.
Voilà.
Alors vous avez sorti récemment un excellent bouquin sur le digital avec votre copain et complice Gérald Carsanti.
Absolument. L'idée, c'était de témoigner sur ce qu'est notre vision, de ce qu'implique, entre autres.
Comment il s'appelle le livre ?
Terre Nouvelle, droit devant. Et donc, qui est d'apporter notre témoignage sur ce que sont les évolutions des compétences, des comportements des gens au regard justement de tous ces changements du monde digital, de l'ubérisation et de choses telles que celles-là.
Alain Roumillac, donc je sais que vous écoutez chaque week-end une vidéo BFM sur BFM Business 96.4 à Paris. Côté vin, il paraît que vos grands-parents étaient très sensibles au vin de l'Alsace. Pourquoi ? Alors,
parce que, donc moi je suis originaire du nord du Limousin, et il se fait que à ce moment-là, au moment de la drôle de guerre en 1939, tous les gens qui étaient très proches de la ligne Maginot, à ce moment, ont été donc transférés, et donc il y a eu un petit village qui s'appelle Sebac, qui est dans l'extrême nord de l'Alsace, près de Wissembourg, où les gens ont été transférés dans deux villages, le mien et un juste à côté, et donc ils ont passé ensuite la guerre. Et ensuite, se sont établies des relations, et jusqu'à il y a 25 ans, j'allais tous les ans, les Limousins allaient en Alsace, et puis l'année d'après, les Alsaciens venaient. Et donc, c'est ce qui a fait...
Un peu la promotion du vin alsacien en Limousin.
Parce que bon, donc bien évidemment, c'est donc une culture paysanne, où on allait chercher, et les vins venaient soit de la Loire, et en particulier de l'Anjou, parce que c'est pas très loin, ou du Bordelais. Et puis, les Alsaciens... ont fait découvrir par cette relation un peu particulière le vin d'Alsace au Limousin.
Excellent Alain. Alors il paraît que vous avez également découvert les Bordeaux quand vous étiez étudiant à la COP, la coopérative de Saint-Émilion.
Alors, absolument. Donc moi j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études d'ingénieur à Bordeaux, donc aux arts et métiers. On n'était pas très riche. Et puis on avait de la chance à ce moment-là, je suppose que les experts confirmeront, au début des années 80, le Bordelais sortait de la crise des vins un peu frelatés, et donc on a la chance d'avoir des vins qui coûtaient pas très cher, et donc on allait se fournir à la cave coopérative de Saint-Émilion.
C'était combien en francs à l'époque?
C'était quelques francs.
Ouais, c'est ça,
donc d'abord on prenait un peu de volume en cubis. Et puis on prenait aussi des bouteilles qui, je suis persuadé aujourd'hui, sont à 20 ou 30 euros. Voilà, alors qu'on était fauchés, donc on partait en expédition, voilà, on goûtait là-bas pas mal, et puis on ramenait pour tous les copains. Et donc voilà, ça, et c'est pour ça que donc initialement j'étais plutôt tourné vers le Bordeaux.
Vers Bordeaux, quoi. Alors au-delà des stars du vin, en tout cas à Bordeaux, il paraît que vous êtes impliqué dans le futur meilleur vin du monde, celui qui aurait pu être noté 100% sur Parker, c'est les vins de Louvciennes, en région parisienne.
Voilà, je pense que s'il ne rend pas aveugle,
la Romane et Conti, il a qu'à bien se tenir.
Voilà, absolument. Et encore une fois. Vous savez, c'est comme un peu dans les tontons flingueurs. Voilà, on n'est pas certain qu'ils ne rentrent pas aveugles, donc c'est pour ça qu'on est prudent sur ce sujet. Oui, donc l'anecdote, c'est qu'avec une bande de copains et sous la présidence de mon ami Benoît Gros...
Que l'on salue.
On a lancé, il y a une dizaine d'années, la réimplantation de la vigne alousienne. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du XXe siècle, et juste avant... Le phylloxéra et le développement des transports qui ont permis de faire venir beaucoup de vins de bien meilleure qualité. Il y avait 60 hectares de vignes à Louvciennes. C'est pour ça que Louvciennes, on a la rue de l'Étarché, on a la rue du Pressoir. Et donc, bien sûr, ça tout avait disparu.
Louvciennes, c'est par rapport à la Tour Eiffel, quoi. 15 km de la Tour Eiffel, à peu près?
Ouais, donc c'est à 15-20 km de la Tour Eiffel, entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles. Et la vigne est au pied de l'Aqueduc. Qui emmenait les eaux de la Seine, construites sous Louis XIV, qui emmenait les eaux de la Seine à Versailles pour pouvoir avoir les spectacles des grandes eaux de Versailles. Donc c'est juste au pied de l'Aqueduc, un endroit absolument fabuleux. Et donc, il y a 10 ans, on a décidé de réimplanter 800 pieds de vigne, donc sur le coteau de Louvciennes, par une association, et tout se fait, bien évidemment, de façon bénévole, avec toute la difficulté de
faire. Et vous êtes combien à bosser un peu?
Écoute, on est 100 membres. Et donc c'est bien parce que déjà c'est 100 cotisants. Et voilà, et on est une petite vingtaine à travailler. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus pour la vendange quand on réussit à avoir une vendange.
Et puisqu'on est. Vendanger quand, Louvciennes, en décembre?
Non, parce qu'on ne fait pas de vendange tardive. Donc on a vendangé dans les premiers jours d'octobre cette année.
D'accord. Philippe Orbach, un petit commentaire sur le millésime 2016 à Louvciennes?
C'est un peu tôt pour le juger, mais j'espère avoir l'occasion de vous en parler bientôt.
Non, mais à votre avis, par rapport au vin de Suresnes, parce qu'il y a les concurrents, il y a Clamart, il y a Suresnes.
Philippe Patton, l'expert mondial en vin de Suresnes.
Suresnes, il y a un vrai savoir-faire, une expérience aussi des vignes qui ont maintenant un certain âge, et de mieux en mieux réalisées avec l'aide d'un œnologue qui vient du secteur de Vendôme, donc dans le nord de la partie Loire de vignoble. Et ma foi, les derniers millésimes apparaissent plutôt pas mal.
Mais pas malade, tu vois bien, quoi.
Du tout, non. Même c'est plutôt agréablement
plaisir, surpris. Alain Roumillat, côté Bourgogne, vous êtes fan des Jean-Maul Musigny. Et alors, côté gastronomie, le coq au vin, vous adorez.
Oui, alors, donc l'anecdote fait que j'ai découvert la Bourgogne par un ami dont la femme est originaire du coin et qui m'avait dit écoute, si tu vas aller découvrir, voilà, te voilà quelques adresses. Donc, j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, et donc on avait fait les choses sérieusement, donc à partir avec donc mon épouse, un couple de copains, donc on est parti,
un semi-remorque et...
Non,
une caravane.
Bon, donc en route, on s'est arrêté à Vézelay, on va prendre un petit coco vin à Vézelay, ensuite. Dîner et coucher chez le regretté Bernard Loiseau juste avant que malheureusement ils disparaissent. Voilà. Et puis ensuite, visite de la plupart des grands crus. Et effectivement, regardez, sans doute une attention un peu particulière pour le Chambol Busigny, parce qu'en général...
Il y a pire.
Oui, mais en particulier, c'est que... je crois qu'il se marie avec pas mal de mets, entre autres quand on va au restaurant et que certains prennent du poisson, l'épouse qui adore le riz de veau. Voilà, donc un petit Chambol Musigny premier cru, c'est en général.
Ils ont du goût, les Romillac.
On confirme qu'effectivement, chez Romillet par exemple, chez De Vaugué, on sait de quoi on parle. L'élégance, le raffinement des Chambol est quand même quelque chose qui est assez unique. Hein.
Ouais. C'est excellent. Et alors, vous êtes également fan des cerises à l'eau de vie de votre maman?
Alors, c'est donc, bien, ça c'était, bon c'était l'autre élément donc de ma vie
avouable.
Initiale, c'est que, voilà, donc un monde paysan, donc du vin, mais plutôt du 5 étoiles et on va dire du supérieur le week-end, quand il y avait la famille.
Oui, 12 degrés pour le dimanche et 10 ou 11 la semaine.
Et l'agneau.
Ah oui.
Voilà. Et donc, il faisait de la pomme. Ils faisaient de la gnôle et ils faisaient leur 10 litres d'alcool pur, tel que la loi leur permettait, jusqu'à ce que...
Mort s'en suive.
Jusqu'à absolument, absolument jusqu'à mort s'en suive. Donc, mon père n'était pas...
Avec modération,
à l'époque, n'était pas encore exploitant. Donc, mais lorsque ma grand-mère est décédée, on a arrêté ceci. Et alors, donc moi, dans ma jeunesse, donc c'était... Donc la gnôle, qui, à mon sens, n'était à peu près que supportable pour rincer la tasse, parce qu'il fallait quand même y mettre un petit peu de goût, parce que sinon c'était horrible. Mais quand j'étais gamin, un voisin qui venait à 10h du matin, bon, un petit coup de gnôle, bon, allez, un petit coup de gnôle. Et alors après, puis ce qui se passe, c'est que très vite, et là, ils se sont très vite embourgeoisés aussi, les paysans. Et donc ils sont passés au whisky, au Ricard, et donc la gnôle, il fallait quand même continuer à faire, par la tradition. Finalement, on l'a recyclé à faire de la cerise et de la prune à l'eau de vie. Et j'en ai encore à la maison. Et en général, chaque fois, en fin de soirée, ça a toujours beaucoup de succès auprès des amis.
Et pour terminer, donc vous êtes fan de whisky, mais plutôt tourbé.
Alors plutôt tourbé, plutôt avec de la gavuline.
Merci beaucoup Alain Robillard, je rappelle que vous êtes
Oui. On aurait pu parler aussi de l'île de Ré, mais...
Alors justement, vous êtes fan de la coopérative de l'île de Ré, parce qu'ils sont dynamiques.
Voilà, moi je suis fan, c'est surtout sur leur approche marketing. Moi je leur dis franchement bravo. Parce que bon, c'est un endroit d'ailleurs où, qui est un peu privilégié sur un certain nombre de sujets. Il y a des gens qui continuent à planter de la vigne, et autour de la cave coopérative, alors ils font du blanc, du rouge,
et ça cartonne,
du rosé...
Hein.
Ils font du pinot,
du cognac,
avec du cognac. Camus... Et ils font du pétillant.
Et c'est bon tout ça?
Le trousse-chemise, célèbre par Charles Aznavour et la CF Plage. Ce trousse-chemise, qui est d'ailleurs donc champagnisé par mon ami Jean-Paul Calès, qui a les cordeliers à Saint-Émilion, qui, comme peu de gens le savent, à Saint-Émilion, donc il y a donc une appellation de vin champagnisé
Crémant de Bordeaux
qui était réalisé dans les caves sous la colline de Saint-Émilion qui a permis de construire où ils avaient sorti les pierres qui avaient permis de construire Saint-Émilion et certains quartiers de Bordeaux et donc il a un superbe crémant à Saint-Émilion.
Attention Philippe Bézou, le patron de l'Anson, la concurrence
lui aussi,
arrive de l'île dorée
et c'est lui aussi qui champagnise donc le trousse-chemise. C'est un peu petit clin d'œil, je pense que ce ne sont pas de grands vins bien évidemment,
mais c'est sympa,
c'est sympa et moi je leur tire mon chapeau pour
le dynamisme
et le développement qu'ils ont.
Merci beaucoup Alain Romillac, vous êtes formidable. Hein. Je rappelle que vous avez un métier, vous êtes le patron de Manpower France. Le business, ça va aller pour 2017, allez, vous inquiétez pas. Il dit le BFM, toujours délocalisé ici, à Paris, juste à côté des Grands Crus d'Ossienne, pour retrouver Aurélie Labruyère pour la réponse à une grande question. Le vin est-il un Picasso comme un autre? Sinon, tout va bien, Aurélie?
Tout va très bien, c'est une question piège que je pose à mes étudiants à HEC pour les faire travailler l'analogie entre le vin et l'art. C'est une analogie qu'on aime tous cultiver, l'analogie, le vin et l'art. Les vignerons sont-ils des artistes? Qu'est-ce que ça veut dire? Le vin est-il une œuvre, un chef-d'œuvre, une grande œuvre? Et donc, je pose cette question pour les perturber un petit peu sous cette forme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous propose de faire une escapade intellectuelle.
Allez, Aurélie, perturbez-nous.
Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire le vin comme une œuvre d'art? D'abord, je voudrais rendre hommage à Denis Dubourdieu, qui avait fait une très belle conférence il y a quelques années sur ce sujet, et qui disait que la valeur d'un grand vin naît de la rencontre entre trois communautés. La communauté d'abord des producteurs, des créateurs de ces vins, donc ceux qu'on appelle soit les vignerons, soit les viticulteurs, comme on voudra, qui sont souvent guidés par un idéal, et même parfois par une forme d'orgueil, un orgueil qui est tout à fait comparable à celui des artistes. C'est-à-dire que ces producteurs, ils sont guidés par une idée du beau, une idée aussi de leur place sur la terre, à quoi sert mon œuvre, à quoi sert mon action, vers quoi je tends quand je crée quelque chose. Ça peut être un tableau, ça peut être un livre, et pourquoi pas aussi un vin. Donc de quoi suis-je en charge sur cette terre et à quoi je sers sur le long terme? Ça, c'est déjà une très belle idée. Je pense au Cros-Parentoux, avec un homme qui avait une forme d'orgueil très humble à la fois, très paysan, paradoxalement, Henri Jaillet, qui a pris en charge cette friche de Topinambour, paraît-il, classée premier cru, et qu'en a fait l'égal d'un grand cru. D'abord en travaillant, en se dédiant de façon très profonde à son terroir, et puis en le plaçant petit à petit, côte à côte, avec un Richebourg, avec un Musigny, pour montrer aux amateurs que la classification officielle, c'est une chose, mais qu'il faut évidemment faire confiance à des personnes qui ont une haute idée de ce que peut être un grand vin. Il faut donc une communauté comme cela, il faut qu'elle rencontre une communauté de consommateurs tout aussi exigeants, tout aussi guidés par l'idéal, par une idée du beau, des initiés, des amateurs. Alors vous remarquerez que d'ailleurs que le mot amateur vient lui-même du vocabulaire de l'art. C'est le mot aimer. Moi je trouve ça superbe quand même quand on me dit moi je suis pas un amateur, j'aime juste le vin. Mais justement, c'est la même chose. C'est le verbe aimer, c'est magnifique. Alors un amateur, il peut parfois aller jusqu'à la collectionnite, et ça c'est assez amusant. Je pense à un Michel-Jacques Chasseuil, qui a probablement l'une des plus grandes et plus folles collections de vins en France. Michel-Jacques Chasseuil, c'est un homme qui a commencé, qui a mis, je dirais, sa passion d'abord dans les timbres, dans les différents objets, même les pierres. Et puis tout à coup, ça s'est cristallisé autour du vin. Et depuis qu'il est tout jeune, qu'il a une vingtaine d'années, il a mis franc après franc tous ses petits sous dans l'achat de bouteilles, dans la revente pour en acheter d'autres. Et puis il a misé sur des vins qui étaient des valeurs sûres, mais il a aussi misé sur des vins qui étaient nouveaux, qui étaient surprenants, dans laquelle il avait confiance, et il s'est constitué la plus grande et la plus étonnante collection cachée quelque part en France, on dira pas où, hein, Philippe, même si on sait peut-être les uns et les autres, voilà. Et il a eu même des soucis, d'ailleurs, au péril de sa vie, il a défendu sa collection contre des voleurs. Alors, je suis impressionnée, moi, quand je rencontre des amateurs qui viennent du bout du monde, des amateurs, des collectionneurs, qui viennent se ressourcer en France, ils disent, voilà, je fais un pèlerinage, je veux savoir comment ça se passe à la source, je mets une semaine de mon temps, ou même deux jours, et pas mal d'argent aussi, pour me faire la visite de mes rêves, emmenez-moi en Bourgogne, à Bordeaux, en Champagne, dans la Loire. Et moi, j'ai l'impression que tout ça, nous, les professionnels du vin, ça nous oblige, ça crée une responsabilité vis-à-vis de cette extraordinaire passion qu'on est capable de déclencher à l'autre bout du monde avec des gens qui ne partagent pas forcément, en tout cas, c'est ce qu'on croit au premier abord, notre vue de la civilisation. Et en fait, on se rend compte qu'on a juste, grâce à cette passion commune du vin, on a énormément de points communs aussi, de valeurs partagées. On voit des personnalités donc qui investissent du temps pour alimenter leurs connaissances. Ça nous oblige à être dignes de cette collection. C'est ça qu'on appellerait donc les consommateurs exigeants qui créent de la valeur parce qu'ils achètent les œuvres de ces producteurs exigeants. Alors l'initiation de ces consommateurs, elle peut se faire idéalement par une tradition familiale. C'est le cas de pas mal d'entre nous, même si parfois on regrette que cette transmission change. Je dirais pas qu'elle diminue, mais moi je pense qu'elle se métamorphose. Et parfois, ça peut être aussi une révélation qui, dans votre vie, un moment, une personne, souvent un mentor extérieur, alors ça peut être la rencontre d'un journaliste, d'un sommelier, d'un producteur lui-même, qui va vous mettre le pied dans ce monde du vin. Moi, je me sens un peu aussi cette responsabilité d'inoculer le virus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, eh bien, on partage encore plus la même maladie.
Bon, alors Picasso, ça. Là-dedans.
Oui. Eh bien, justement, Picasso...
Où est-il, Pablo? Voilà. Pablo.
Pablo.
Et voilà, il faut aussi des marchands pour porter la rencontre entre ces consommateurs et ces producteurs. Il ne faut pas l'oublier, des marchands investis. Donc, ils ont un rôle d'aller chercher les pépites, chercher le Picasso de demain parmi les viticulteurs, de faire confiance. Les prescripteurs, plus largement, ça peut être aussi la presse, évidemment, les acheteurs, les prescripteurs, c'est aussi les sommeliers, toutes sortes d'acheteurs que nous rencontrons, les cavistes et ainsi de suite. Et quand ces trois communautés se rencontrent, eh bien, on voit émerger quelque chose comme une œuvre d'art, à mon avis. Et puis, si on pousse donc cette analogie, on se rend compte que dans le monde du vin, il y a des écoles de style, justement. Il y a des ruptures épistémologiques, comme 1976, le jugement de Paris, dont on a déjà parlé à ce micro cette année. En fait, c'est 40 ans, qui a fait émerger une nouvelle scène, la scène californienne, vous voyez, sur la scène internationale du vin. Il y a des ruptures, il y a des cas d'école, il y a aussi des personnalités qui sont des outsiders, et ainsi de suite. Voilà, tout ce qu'on peut dire, à mon avis, sur cette analogie qui nous permet d'augmenter notre passion.
Merci beaucoup Aurélie. Vous me rappelez le titre de votre dernier livre, c'était quoi ?
Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre ? 80-20, expliqué à tout le monde.
C'est édité chez qui ?
Chez Erol.
Une excellente idée de cadeau, Nino BFM. On retrouve maintenant l'excellent Philippe Forbrac, monsieur le président depuis quelques temps, là. Meilleur sommelier du monde, sinon en option. Direction le sud-ouest, Fronton. Et mais j'ai rien à voir avec la pelote basque.
C'est vrai, mais bon, j'étais à Toulouse il y a quelques jours, justement, pour le concours de meilleur sommelier de France et les élections du nouveau président. Et j'ai goûté pas mal de vins de la région. C'est vrai qu'on est gâté quand on est là-bas.
C'est bon, hein.
Des très belles choses. Et parmi les vins les plus célèbres du coin, le plus emblématique à côté de Toulouse, c'est le Fronton.
Le plus toulousain.
Exactement. Alors, c'est du côté de Fronton, de Villaudric. On est entre Toulouse et Montauban. Dans un endroit qui a toujours été voué à la culture du vin depuis très longtemps.
Il ne faut jamais quitter Montauban. Jamais.
Il paraît, ouais. Il paraît que quand on y reste, c'est ça. Alors, les amateurs du rugby.
Ça rend aveugle.
j'adore ces vins.
J'avais dit des Montauban, on voit les références.
On dit d'ailleurs que ce vin qui est issu du pays du rugby, hein, est rond en bouche, mais qu'il est ovale dans l'esprit, finalement. Et c'est ça un peu la définition de ce vin que dont les gens de la région sont fiers, avec raison. On produit seulement on travaille que des raisins rouges, essentiellement un cépage local qui est identitaire, qui s'appelle la négrette. On peut y ajouter du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, du Côte ou encore du Syrah, mais c'est vraiment la négrette qui est le cépage le plus connu. Ça donne des vins qui sont assez colorés lorsqu'ils sont vinifiés en rouge, parce qu'ils peuvent être vinifiés en rosé également sur le coup très fruité. Mais un rouge très coloré, relativement dense, et souvent marqué par des arômes de fruits noirs, de fruits rouges, mais également, et c'est l'un des marqueurs aromatiques, même gustatifs, la violette, par exemple, la pivoine, et en bouche, le côté réglissé.
Et paradoxalement, ça, c'est pas tannique. Il faut pas associer D'accord. force de couleur et force tannique. C'est plutôt léger.
Exactement. On n'a pas d'astringence démesurée. C'est pour ça qu'il y a le côté ovale et rond, effectivement, qui vient. C'est ces formes qui donnent plutôt dans le côté sphérique, plutôt que dans le côté un petit peu rugueux.
Est-ce que ça peut vieillir, Philippe, ou pas?
Alors, j'ai goûté des vins relativement jeunes, c'est-à-dire des vins qui avaient 2-3 ans d'âge et qui étaient déjà fort égards parce que le fruité est éclatant. Mais lorsqu'on a la patience d'attendre une dizaine, quinzaine d'années, on s'aperçoit que ce sont des vins exactement qui peuvent se tenir. Alors, sur les beaux terroirs, il y a 2000 quelques hectares d'appellation, pas tout est planté, il y a des endroits qui sont plus qualitatifs que d'autres, mais quand on est sur des coteaux, lorsqu'on est bien exposé, lorsque les rendements sont maîtrisés, on arrive à avoir des vins qui ont une vraie tenue intéressante au niveau du palais.
Sur la longévité, donc quasiment comme les grands crus de Louvienne, un peu.
On peut faire ce petit parallèle sympathique, un peu loin quand même, hein. Un peu lointain. Alors, les vins donc sont à consommer toujours avec modération et avec grand plaisir. Le rosé est parfait si on veut juste faire un petit casse-croûte, l'apéritif, etc. Notamment quand on est à l'extérieur. Dieu sait s'il y a de très belles journées, presque quelle que soit la saison à Toulouse ou dans les environs. Les rouges sont d'excellents vins simples aussi, de grillades, de terrines, de plats un peu gourmands mais super accessibles.
Un peu canaille ou pas, Philippe?
Un peu canaille aussi, je sais que vous aimez bien ce terme-là. Mais il y a sur des poissons, ça marche aussi bien. Par exemple, j'ai goûté des rougets. Saisie ou grillée, mais même saisie à la poêle, ça fonctionne très bien. Et le fronton est un vin qui, justement, par la souplesse et par le manque d'astringence tannique, donc ressenti en tout cas, permet également d'aller sur des poissons.
Ça coûte combien,
facilement.
Philippe, une bouteille? Une bonne bouteille.
Dizaine d'euros.
Autour de 10 euros,
une dizaine d'euros, on se régale. Il y a comme toujours des cuvées un peu spéciales, etc. Mais on n'est pas obligé de monter sur des cuvées qui sont élevées longuement, boisées, etc.
Oui, ça va
on
de
peut
5
juste
à 15,
se faire plaisir avec des vins autour de dizaine d'euros.
Et la température de service, Philippe?
Alors, sur les vins jeunes, moi j'aime bien la température de cave. Légèrement supérieur, mais autour de 14 degrés, c'est magnifique. Lorsque ça prend un petit peu d'âge, et toujours pour les rouges, on peut monter facilement jusqu'à 18 degrés, parce qu'on va plus valoriser la densité du vin, son soyeux, sa complexité aussi. Il ne faut pas le descendre en température.
Quelques vignerons peut-être que vous affectionnez particulièrement?
Oui, le château Le Roc, qui est un peu la star de la région, mais la Colombière est un vin que j'aime bien, de rapport qualité-prix incroyable. Le domaine Pénaveyre-Plaisance, le château Cahuzac, le château Bellevue-la-Forêt, par exemple, ça fait partie des références historique de cette région. Il y a un groupe qui s'appelle Vinovalli, pour rappeler un peu d'ailleurs l'histoire du rugby, qui distribue pas mal de vins de la région, et notamment ils ont une très très jolie sélection. Ils font aussi des cuvées qui portent leur nom, mais sélectionnent aussi des cuvées de la région qui sont remarquables.
Et quand on passe dans le coin, Philippe, ils sont accueillants, on peut aller les voir, on leur dit coucou, on écoute une vidéo BFM, on a droit à un petit verre gratuit.
Il y a tout à fait, on peut se faire plaisir. C'est une terre d'accueil, ça a été la propriété d'ailleurs sous ce coin-là des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem pendant longtemps. Ils ont gardé cet esprit d'hospitalité, en tout cas. On peut venir, si on part de Vézelay, dont on a parlé.
On part de Louvciennes, tout part de Louvciennes dans la vie.
Après, on va de Louvciennes et qu'on veut faire le chemin.
Il ne faut jamais quitter
Louvciennes. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en passait par là, on est sûr d'avoir le gîte et le couvert et un bon verre de vin.
Merci beaucoup, Philippe Arbrac. Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour au restaurant Bar à Vin Nicolas Paris, 31 Place de la Madeleine, pour le Vino Quiz et parler du champagne Lançon.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, 31 Place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement, avec David Cobol et puis le Vino Quiz, mon cher David.
Petit rappel de la question de la semaine dernière qui fut: à quoi reconnaît-on un sommelier? réponse A, à la grappe qui porte au revers de sa veste. Option B, au tire-bouchon qui garde dans sa poche ou autour de la ceinture, enfin quelque part. Pas autour du cou. Par contre, la réponse C, c'était un tasse de vin qu'il arbore autour de son cou.
Et la bonne réponse, David, est
A.
Bien sûr. Cette semaine, alors.
Cette semaine, nouvelle question concernant un vin de Loire, l'appellation Saint-Nicolas de Beauregueil. Quelle couleur n'existe pas dans cette appellation ?
N'existe pas. Hein.
N'existe pas. On pourrait poser là exactement la même question, on aura la même réponse pour l'appellation Bourgueil.
Réponse A.
Jumelles. Option A, rouge. Option B, rosé. Option C, blanc. Et pour répondre, vous envoyez votre réponse à l'adresse mail suivante, invino@vinojeu.com.
Et le gagnant sera tiré au sort. Parmi les bonnes réponses, David Cobold.
J'espère, oui.
Merci, David. J'accueille maintenant avec beaucoup de plaisir et de bonheur Philippe Béjot, le président du Champagne Lançon. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Alain.
Alors, on commence par le début, hein. 1760. Vous n'étiez pas né, d'ailleurs, Philippe.
Pas tout à fait.
Alors, racontez-nous, c'est le début de cette belle aventure, la saga Lançon.
La saga Lançon, c'est d'abord une famille qui dirige, qui règne sur la maison pendant plus de 200 ans, qui aujourd'hui n'est plus dans la maison. Mais qui nous a laissé un beau passé.
Un magnifique héritage. Qui sont les actionnaires aujourd'hui?
Eh bien, ce sont trois familles qui sont au sein d'un groupe aujourd'hui qui s'appelle Lançon BCC, la famille Paillard, la famille Roque-Boisel et la famille Béjot, la mienne.
Alors, Lançon a beaucoup de chance, notamment d'avoir un super chef de cave.
Nous avons un super chef de cave. Nous avons eu la chance aussi d'avoir un grand chef de cave.
Bien sûr.
Pendant très longtemps, qui était Jean-Paul Grandon.
Ils ont tous été bons, d'ailleurs, depuis la création de Lançon, quoi.
Il y a eu certainement de très grands hommes, certainement. Pour faire les vins qu'il y a au sein de la cave, il y a eu de grands hommes. Donc Jean-Paul Grandon a été dans la maison pendant 42 ans. Il a pris sa retraite il y a maintenant un an et demi. Et son successeur est Hervé Dantan, un jeune et brillant œnologue, et qui nous donne toute satisfaction.
Comment est-ce qu'on peut définir le style de cette maison Lançon? Après on verra sur les différentes catégories, mais en général le style, ce que vous prêchez.
Eh bien le champagne Lançon a un goût assez particulier, je dirais, qui lui est propre. Quand on aime, on aime vraiment.
Oui.
Quand on aime, on aime vraiment.
Et on reconnaît le style, quoi.
Et voilà.
Il y a quelques semaines, quelques mois, Philippe Forma, je vous en prie.
Oui. Alors, mais c'est vrai que c'est un style, quoi, assez reconnaissable. Notamment le fait de ne pas faire la fameuse fermentation malolactique donne toujours une tension, une acidité, une fraîcheur. Un potentiel de garde également qui est vraiment spécifique.
Mais est-ce que c'est systématique? Je ne crois pas que ça soit une religion, ça.
Ce fut réellement une religion. C'est quelque chose qui évolue justement avec l'arrivée de notre nouveau chef de cave. On a le droit de se donner les moyens dans des années difficiles de ne pas faire tout sans la malo.
En permanence. En permanence.
Mais vous savez, le fait de ne pas faire la malo nous oblige. Et c'est très très important chez nous.
Alors qu'est-ce que c'est que la malo qu'il y a? Parce que là on écoute, c'est une émission grand public, là c'est quoi une malo? C'est un mashmallow, c'est quoi?
Malo, c'est un deuxième phénomène fermentaire après la fermentation alcoolique et qui rapidement transforme l'acide malique en acide lactique en diminuant par ce fait la perception acide puisqu'on modifie le pH.
D'accord. Aurélie Labruyère, vous en pensez quoi? Un petit commentaire peut-être, Aurélie?
Je voulais savoir pourquoi vous portez un emblème très particulier à votre revers de veste et à quoi on reconnaît donc le président de la maison Lançon.
Alors, réponse A, parce qu'il a une grappe.
en fait,
le deuxième Lançon du nom a été chevalier de l'Ordre de Malte. Donc, quand j'arrive à la tête de cette maison, il y a 10 ans, je découvre la Croix de Malte sur les habillages Lançon. J'ai le plus grand respect pour l'Ordre de Malte. Simplement, nous n'avons rien à faire avec l'Ordre de Malte. Donc, en fait, je pense avoir été inspiré, justement, à partir de cette Croix de Malte, j'en ai fait la Croix Lançon.
Exactement.
En la modifiant légèrement et en la déposant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, sur ma communication, sur mes habillages, sur notre publicité, eh bien, nous mettons cette croix en avant.
La croix Lançon.
Un jour, j'espère, les gens en voyant cette croix pensent Lançon, bien entendu.
Alors, il y a quelques mois, on a fait une petite balade avec certains spécialistes d'Invino, notamment David Cobold. On est allé voir chez vous le Clos Lançon.
Oui,
on s'est régalé. Alors, racontez-nous, parce que le lieu est assez étonnant.
Mais écoutez, ce Clos Lançon, il s'agit d'un hectare de Chardonnay qui est en fait au cœur de Reims.
Dans la ville, hein.
Dans la ville. Quand vous êtes dans le Clos, eh bien, devant vous, il y a au fond la cathédrale. C'est quelque chose d'unique.
C'est un peu comme Louvciennes avec la Tour Eiffel, quoi.
Voilà. Enfin, je ne ferai pas de comparaison avec Louvciennes. Encore que, donc, quand j'arrive dans cette belle maison, quand je visite Lançon pour la première fois en 2005, je vois cette vigne. Et je m'aperçois, enfin, je pose des questions, j'apprends que cette vigne est cultivée par quelqu'un de l'extérieur, vendangée par des gens de l'extérieur. Je trouve que c'est absolument aberrant. En fait, cette vigne, nous la cultivons aujourd'hui comme un jardin, je dirais, avec des employés de la maison. Nous la récoltons nous-mêmes. C'est à chaque fois l'occasion de faire une grande fête. Le fait que cette vigne soit isolée au cœur de la ville...
Parce que tous les collaborateurs viennent vendanger, c'est ça ?
Ceux qui veulent. C'est un volontariat.
Vous les obligez un petit peu quand même, Philippe.
Ah,
pas du tout, d'accord.
Pas du tout, pas du tout. C'est une question de volontariat.
Mais vous comptez ceux qui ne sont pas venus ou pas ?
Pas du tout. Pas du tout. Mais sachez que une fois que la cueillette est faite, et ça va relativement vite puisqu'il n'y a qu'un seul hectare, ça va quand même en quelques heures, c'est fait. Après, on boit de vieilles bouteilles, on fait une grande fête.
Une petite fête, avec modération, mais une bonne petite fête.
C'est quelque chose de sympathique, mais...
Mais c'est important de dire aussi que le vin est très bon.
Alors bien sûr.
C'est pas facile à obtenir parce que le nombre de bouteilles est très limité, mais le vin est remarquable. Et c'est non seulement une espèce de trésor historique, une vignoble encore au cœur de la ville de Reims, mais de faire un très grand vin comme vous le faites.
Voilà, et donc nous venons de commencer à vendre le 2006, la première année de l'appellation Clos. Nous vinifions ce vin, bien sûr, complètement à part, puisque c'est un Clos. Nous le vinifions dans des petits tonneaux d'une façon extrêmement traditionnelle. Nous en faisons, je pense, un grand, grand vin. Nous sommes très, très fiers.
Alors, autre atout de la maison Lançon, un patrimoine étonnant en termes de vieux millésimes, parce qu'avec David, on a dégusté peut-être une dizaine de millésimes différents. Vous avez quoi, une cave à vin spécifique, oui, millésime qui débute à 1976.
Oui, en fait, même plus ancien que ça. Mais à la vente, nous commercialisions des Magnum jusqu'à...
Et vous étiez seul, c'est très rare, non?
Je pense que certaines autres maisons peuvent avoir également de vieux millésimes. Mais là, réellement, nous avons des volumes. Et ça, je le dois. Et je rends hommage à nos prédécesseurs qui ont su garder, conserver ces grandes années. Voilà.
Et donc, là, oui.
En 76, par exemple, à l'inventaire du 31 décembre, j'avais encore 3000 magnums.
Hein, 3000 magnums. Et combien ça peut coûter un magnum de 1976 en Lançon, par exemple?
Il faut que vous alliez chez Lavinia à côté.
On va plutôt chez Nicolas.
Nicolas ne doit pas avoir 76. Je crois qu'il y a des millésimes plus récents. Mais en fait, ce sont des bouteilles qui, aux consommateurs, se retrouvent entre 500 et 700 euros.
Ouais, ce qui est quand même raisonnable pour des vins juste exceptionnels.
Et puis ça apporte la preuve que les gens ignorent, trop souvent, ignorent que le champagne est un vin de garde absolument remarquable. Le grand champagne.
Et puis des vins de gastronomie aussi, David, hein, c'est pas uniquement pour ça.
Je vais vous préciser quelque chose. J'ai eu la chance de réunir deux anciens combattants de la dernière guerre. L'un était né en 25 et l'autre en 26. Nous avons fait une réunion de ces deux grands monsieur à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Reims, le 30 août. J'ai regardé ce qu'il y avait dans la cave. Et il y avait un magnum de 26.
De 1926.
Oui. Et nous l'avons ouvert et c'était fabuleux. On l'a bu jusqu'à la dernière goutte.
Ah, j'imagine.
Moi, je suis 76.
On va dire des gros yaka. C'est bien noté, quoi. Et pour terminer, Philippe Béjot, c'est bien d'avoir des jolis clos, c'est bien d'avoir des gens compétents, mais il faut aussi un bon matériel. Vous avez massivement investi dans l'outil de production, l'outil de vinification. Et ça mérite d'être souligné aussi. Hein.
Tout à fait. Nous avons d'abord investi au niveau de la cuverie. Quand Hervé Dantan est arrivé, en fait, quand nous avons commencé à discuter, il a passé deux ans avec Jean-Paul Grandon, il m'a dit il faut absolument une cuverie petit volume. Alors nous avons fait une cuverie petit volume, des cuves de 50, 75 et 100 hectos, de façon à pouvoir vinifier à part les crus exceptionnels. Et puis nous avons également réalisé un chais-bois pour nos vins de garde, pour nos vins de réserve, et c'est quelque chose d'essentiel si on veut monter en gamme.
Et avec un parcours aussi dans Reims qu'on peut visiter.
Enfin, et alors nous ouvrons maintenant la maison au public, et ça, je pense que c'est très important de pouvoir accueillir. Et
il faut y aller.
Accueillir. Il faut y aller. Je vous invite tous à venir voir Lançon.
Merci beaucoup, Philippe Béjot.
Ça fait 50 000 personnes qui nous écoutent. Hein. Vous vous rendez compte, Philippe?
Eh bien, à 6 magnums par personne. Est-ce que vous connaissez le CER de l'Union Interalliée, Philippe Béjot?
De réputation.
Ah mais écoutez, ça tombe bien, il faudra y aller.
Je ne suis pas membre.
On accueille pour l'instant maintenant Grégory Burzi, qui est le chef de ce bel établissement. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Est-ce que vous connaissez le champagne Lançon? Vous avez déjà dégusté?
Oui.
Vous aimez le champagne d'ailleurs ou pas?
Ah, j'adore ça.
C'est vrai?
D'ailleurs, j'ai fait un plat avec le champagne Lançon il n'y a pas si longtemps que ça, avec un homard.
Ah très bien.
Oui, oui.
Mais il faut nous inviter pour ça aussi. On peut se débrouiller pour venir. Aurélie avec un Magnum 76. Et...
Oui.
Bon, alors Grégory, donc un petit mot. Donc vous êtes né en 1979, diplômé d'école hôtelière d'Avignon, c'est ça?
Oui.
La cuisine, pourquoi vos parents étaient déjà dans ce métier ou pas?
Oh, je dirais que c'est une histoire un peu classique. Moi, je m'amusais plus avec les saladiers et les spatules qu'avec mes jouets dans la cuisine de ma grand-mère. Donc ma grand-mère m'a dit un jour à ma mère, tu seras cuisinier. Et effectivement, je suis devenu cuisinier.
Bon, alors vous avez fréquenté beaucoup de beaux établissements dans votre carrière, soit c'était court ou alors long, ça dépendait des moments. La Messardière, un souvenir, Messardière à Saint-Tropez.
Oui, bah, la Messardière à Saint-Tropez, je suis arrivé, bon, c'était avec un chef avec qui j'étais à Saint-Martin-de-Belleville, qui connaissait ce chef au château de la Messardière, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était un très bel établissement et je voulais faire un peu un palace. Et j'ai commencé là-dedans et je suis tombé amoureux. Et ensuite, j'ai continué à faire les palaces quand je suis revenu sur Paris au Georges V. Voilà.
Vous êtes également passé par Lucas Carton avec un grand amateur de vin, Alain Sandras.
Oui. Ouais, ouais.
C'était une belle époque aussi, ça?
C'est une belle époque. Pas tous les jours facile, mais très belle époque. Et j'ai beaucoup appris. Beaucoup, beaucoup appris.
Ça, j'aime bien l'expression. Pas facile tous les jours.
J'aime bien l'expression « j'ai beaucoup appris ». Ça voilà. veut dire que ce n'est pas
ça
toujours
facile.
Ça veut
dire beaucoup de choses, oui. Oui.
Il y avait également Eric Fréchon au Bristol.
Effectivement, oui.
Combien de temps avec Eric?
Deux ans.
Mais belle aventure aussi.
Belle aventure. J'ai fait une aventure à ses côtés parce que j'étais le chef du 114, où on a obtenu une étoile. Donc ça, c'était une belle satisfaction. J'aurais pu rester encore un peu plus longtemps, mais bon, le Ritz m'a appelé.
Oui, alors l'Espadon, c'est sympa, c'est aussi belle aventure aussi.
Oui, très très belle aventure. Dommage que quand je suis arrivé, ça s'est terminé par des travaux.
Oui.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu un parcours un peu en dents de scie, mais bon, voilà.
Non, mais c'est un choix. Il y avait également Christian Constant avec le violoneur.
Oui. Il m'a beaucoup apporté. Je suis arrivé dans ses cuisines, je dirais, avec une cuisine un peu trop compliquée. Il m'a apporté le goût de l'enfance, je dirais. Et donc, j'ai pu épurer un peu plus ma cuisine. Donc, je le remercierai jamais assez.
Et aujourd'hui, donc, le Cercle de l'Union Interalliée, donc, c'est un club privé, on va le dire.
C'est ça.
Situé au 33 rue de Faubourg-Saint-Honoré, donc dans les beaux quartiers, juste à côté d'un truc qui s'appelle l'Élysée, par exemple. Voilà. et le lieu est juste magique, quoi. C'est superbe.
Ouais.
Et l'ambassade de Grande-Bretagne.
Et l'ambassade, exactement. Et avec le seul terrain de tennis sur gazon de la capitale.
Et la piscine. Et la piscine. Intérieur extraordinaire.
Voilà, il y a plus de piscine que terrain de. Oui, mais c'est un bel endroit, quoi.
Ouais.
Donc là, le lieu, il est superbe. Ouais. C'est privé. Et donc, aujourd'hui, votre philosophie de la cuisine, comment vous voyez les choses, Grégory?
Ben, la philosophie de la cuisine, c'est la philosophie des membres. Parce que là-bas, on appelle des membres et pas des clients. Donc, il faut savoir s'adapter. Il y a eu un chef qui était avant moi qui restait quand même 40 ans, donc j'ai succédé. J'essaie de garder le même style de cuisine aujourd'hui. Je dirais peut-être avec ma touche à moi, peut-être un peu plus moderne, mais en gardant la tradition, quoi, toujours. Parce que
il y a une habitude, on va dire, quoi.
Voilà.
Et puis, Et Denis de Cargolet, le président, que l'on salue d'ailleurs, lui aussi est motivé par la bonne gastronomie comme son directeur Dominique Denis.
Ah oui, il en est fan. Surtout aujourd'hui, je lui ai fait découvrir ma cuisine.
Alors, quelques plats signatures, tiens, pour ceux qui seraient invités ou membres d'ailleurs du Cercle Grégory.
Eh ben, on va en parler justement par rapport au champagne Lançon. J'ai fait, par exemple, là, le plat signature qui a beaucoup plu, j'ai fait un homard thermidor qui est un grand classique de la cuisine. On va dire que j'ai récupéré tous les intérieurs de homard. C'est là où il y a les parties les plus crémeuses et c'est là aussi les plus goûteuses. Et j'ai créé une émulsion, donc un sabayon, à base de jaune d'œuf et de champagne. Car le champagne, on en parlait tout à l'heure, qui a une acidité. Quand on le réduit, l'acidité sort d'une autre façon, d'une autre manière. Et c'est une acidité qui est naturelle. Donc on n'a pas besoin d'ajouter un jus de citron ou de vinaigre ou autre. Et on met une cuillère de moutarde dedans pour donner un peu de force, un peu de corps dans tout ce plat. Et on met ça sur le homard, le corps du homard. On le fait flasher à la salamandre, donc gratiné léger. Et j'ai envie de dire, à table.
C'est juste le paradis. Philippe Béjot, là, qui salive, sachant que vous avez une jolie maison en Bretagne. Donc le homard mouton, là, ça vous parle.
Ouais.
Philippe Forbrac, avec ce super homard préparé par Grégory, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de vin?
Un grand champagne, on l'a évoqué jusqu'ici. Ou alors un grand blanc de Bourgogne, ou éventuellement...
Un ermitage blanc, ça peut être aussi une belle idée d'association.
Ouais. Alors ça, Grégory, c'est délicieux ce que vous préparez. Il n'y aura pas d'étoile Michelin parce que voilà, c'est comme ça, ni oui. Parce que c'est comme ça, c'est un club privé, encore une fois. Juste les membres ont la chance. Mmh. C'est facile de se motiver aussi quand on a une cuisine banquée, parce qu'il y a aussi beaucoup de banquets au sein du CERF de l'Union Interalliée. C'est un autre sport, si je puis dire.
Voilà, c'est un autre sport. Moi, bon, j'ai un parcours très étoilé. Aujourd'hui, je dirais que c'est un challenge pour moi parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de banquets, il y a beaucoup de menus. J'essaie de créer aujourd'hui des identités un peu différentes. On a la piscine où je crée une cuisine plutôt ménagère avec une tomate farcie. La salle à manger qu'on appelle au cercle, qui est le restaurant, je dirais, gastronomique
oui, on peut le dire.
Pour moi, et le côté banquet. Qui en fait, j'essaye aujourd'hui d'apporter une rapidité, une excellence et rigueur à la hauteur de 300 couverts.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est surtout Aurélie ça qui est très important.
Dans ces trois exercices, vous travaillez main dans la main avec un excellent sommelier, Nicolas Scafidis.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez dans votre cave?
Je sais pas.
Vous aimez le vin quand même, Grégory?
J'adore le vin. Je sais pas. C'est secret. Je sais qu'il y a quelques pétrus, mais je les ai même pas encore vus. C'est vraiment très très secret.
Alors le code de l'Interallié, c'est le 3, le 7.
Voilà.
Et vous, à titre personnel, vos bons souvenirs en matière de vin, de bonnes bouteilles à déguster, qu'est-ce que vous avez eu? Deux souvenirs.
J'en ai surtout un parce que j'en ai pas deux. J'en ai un qui était exceptionnel à mon départ du Georges V quand j'y suis quand même resté 6 ans. Éric Beaumard m'a offert un château Ikem 82.
Ah, c'est pas mal. Et qui est Eric Beaumard, d'ailleurs, Philippe Orbach?
C'est le directeur du restaurant Le Georges.
Qui n'est pas sommelier,
et
aussi
qui était sommelier, meilleur sommelier de France, et qui a été vice-champion du monde des sommeliers en 1998.
Un grand amateur. Grégory, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine, 2017? Beaucoup de bonheur?
Que du bonheur.
Hein, continuez à vous éclater.
C'est exactement ça.
Et à séduire les membres avec voilà. Puis apporte un peu de nouveauté aussi?
Tous les jours, j'essaie d'en apporter.
Grégory Biorzik, le chef du CERF de l'Union Interalliée à Paris. Merci Grégory, en tout cas. Vous aimez les vins de Saint-Nicolas de Bourgogne ou pas?
Oui.
Il y en a sur la carte, je suppose, non?
Oui. Il y en a, oui.
Et parce qu'en plus, les prix des vins sont très raisonnables, ça on peut le dire aussi.
Oui.
Il y a des coefficients différents, on n'est pas dans d'autres établissements.
Oui, voilà.
Bon, ben très bien, ben voilà, il est parmi nous, Noël Bouclier. Bonjour Noël.
Bonjour.
Alors vous aimez vos vins, évidemment.
Bien sûr.
Vous connaissez l'Interallié ou pas?
Non, je ne connaissais pas. Bon. Donc je découvre. Il faut effectivement certainement une bonne adresse à découvrir. Moi, je suis tombé dans la barrique tout petit.
Oui, mais au début, ça commençait mal, Noël. Vous vouliez faire être avocat. Oui. Être avocat, bon, on est quand même dans du
avocat,
vin.
Vous voulez être avocat international. Et puis, effectivement, l'opportunité familiale s'est présentée. Mon frère a décidé de faire médecine. Et puis, il n'en restait qu'un. Et donc,
il est devenu médecin, le frérot?
Malheureusement, mon frère a disparu il y a 6 ans. Donc, mais il a été à mes côtés tout le temps, tout en étant lui sur la partie médicale. Mais
de vin familial débute en 1885.
Alors, 1885.
Vous tutoyez Lançon, là, attention. Ah,
on tutoie Lançon, mais vous savez, le vignoble de la vallée de la Loire, c'est un vignoble qui est très ancien. On va parler de Saint-Nicolas de Bourgueil tout à l'heure, mais les premières plantations d'Ine, c'est presque en l'an 1000, hein, c'est les moines bénédictins.
Oui, Don Cobold qu'on a vu arriver d'Écosse
à l'époque. Là, on a un vieux passé, effectivement. Alors, moi, beaucoup plus récent, 1885. Moi, je suis la cinquième génération à la tête de cette.
Et la sixième est motivée.
La sixième était arrivée il y a un an, il s'appelle Nicolas.
Et un peu de talent, Nicolas, ou il faut qu'il apprenne encore du papa?
Pour l'instant, il va faire ses preuves à droite à gauche sur les marchés export. C'est développer effectivement la commercialisation de nos produits. On est une maison de négoce sur la vallée de la Loire, mais aussi propriétaire de vignobles. On a
combien d'hectares total?
90 hectares de vignes.
Quand même. Alors vous avez aussi une catégorie de vins de cépage, c'est ça?
Alors on a bien évidemment les catégories de vins de cépage que l'on vend très bien sur les marchés internationaux, à l'exportation en Angleterre, aux États-Unis. Sur le marché français, c'est quelque chose qui arrive petit à petit.
Vous avez combien de cépages différents?
Oh, on fait principalement les cépages nigériens, c'est-à-dire Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir et Cabernet Franc. Voilà.
D'accord, il faut
et un
bien.
Assemblage de vins rosés, ça fait une gamme de 5 vins qui effectivement est intéressante, permet aux gens de passer d'un univers qui était peut-être la bière pour découvrir le vin, au moins le mot cépage leur parle. même si je crois beaucoup à l'aspect au nom, aux régions, bien à sûr. L'avenir, effectivement.
Et vous faites également des bulles.
On a démarré effectivement les bulles très récemment, puisqu'on va lancer notre première cuvée effectivement l'année prochaine sur un Vouvray brut, avec un élevage que l'on souhaite un petit peu plus long que l'élevage traditionnel qui est de 12 mois sur latte. On va commencer à travailler sur un élevage de 24 mois et puis essayer de faire des produits un petit peu plus... plus structurant, plus intéressant sur l'évolution. On partage avec la champagne, comme beaucoup de vins septentrionaux, cette notion d'acidité qui est un ami du vin et surtout pas un ennemi, qui permet au vin de garder tout son fruit, de le tenir sur la durée. Je crois que sur la Loire, nous avons aussi de très belles appellations, même si je suis là pour parler de Saint-Nicolas, très belles appellations comme le Vouvray, qui garde des millésimes jusque dans les années 21, 47, 59, où on a des choses absolument exceptionnelles. Donc
un vrai potentiel de garde, quoi. Alors, Saint-Nicolas de Bourgueil. Alors, quelle est la couleur d'ailleurs qui n'existe pas entre le blanc, rouge et rosé?
C'est assez facile, c'est le blanc qui n'existe pas effectivement à Saint-Nicolas, mais il aurait pu exister, puisqu'il existe effectivement à Chinon.
Mais si on mélange du rosé et du rouge, ça ne fait pas du blanc chez vous?
Alors, on ne peut pas, non, ça ne marche pas comme ça effectivement, et comme nous le savons, il n'y a pas de blanc à Saint-Nicolas, c'est difficile. Donc effectivement, Saint-Nicolas produit très majoritairement des rouges, à plus de 95%. Cépage, le Cabernet Franc, un tout petit peu de Cabernet Sauvignon, mais très forte majorité de Cabernet Franc. 95% de la production, effectivement, en rouge. Un beau développement sur le rosé. Je pense que c'est effectivement une couleur qui
à la mode,
devient un petit peu à la mode aussi. Donc on développe.
Pour le champagne aussi, Philippe Béjot, le champagne rosé, ça se développe aussi?
Absolument.
Absolument, quoi. Donc c'est une mode tout produit confondu.
Chez Lançon, c'est 20% de ses ventes.
Ah, quand même, ouais. Et vous?
Et chez nous, ça représente à peu près, on va dire, 30% de nos ventes. Parce qu'on est très présent sur la région de l'Anjou avec des vins un petit peu sur la sucrosité comme des rosés d'Anjou et Cabernet, donc c'est 30% et beaucoup à l'exportation et marché français.
Vous vendez 40% à l'exportation, c'est
40% à l'export, principalement Angleterre, États-Unis, Canada, oui.
Et sur la France, donc le solde,
le solde sur la France,
il y a Nicolas bien sûr qui vend vos produits.
Notre premier client effectivement, c'est la maison Nicolas, voilà. Avec lequel on travaille depuis 40 ans. C'est un vrai partenariat,
voilà.
avec l'équipe en place. Monsieur Favreau pendant longtemps, et maintenant une nouvelle équipe qui est
et
là.
Et il y a d'autres enseignes, ou le CHR également, la grande
on
distribution.
On travaille plutôt la grande distribution sur des cuvées, sur nos domaines familiaux, bien évidemment. 85% de ce que l'on commercialise provient de nos propres vendangeoires.
D'accord.
Nous avons un vendangeoir en Touraine, un en Anjou, un en Pays Nantais. Et nous sommes acheteurs de raisins et de moûts que nous vinifions et que nous commercialisons. Nous sommes véritablement négociants, éleveurs, vinificateurs.
Vous connaissez les vins de Jerez?
Oui, tout à fait. Oui, de réputation.
Vous aimez ou pas? Vous n'avez pas l'air motivé là.
Je ne suis pas très amateur. Mais peut-être qu'effectivement.
David Cobol, Noël, merci d'avoir été venu parmi nous. Merci et David, vous convaincre, le cofondateur de l'Académie Vision de Paris, David Les Jerez. Alors, ça mérite un peu d'éducation.
Oui, et je dirais que c'est peut-être un chef-d'œuvre en péril actuellement. Jerez, c'est intéressant à plusieurs titres. D'abord, c'est la seule appellation au monde dont le titre officiel s'est décrit dans les trois langues. Jerez, Xerez en français et Jerez. Et on voit ça sur l'étiquette, les trois langues. Donc c'est dès le début une vocation très internationale, comme souvent les vins sur la côte de la péninsule ibérique et voire plus loin, étaient faits d'abord pour le marché anglais. Donc ce sont des vins qu'on a très largement, très majoritairement fortifiés, c'est-à-dire en rajoutant de l'alcool. À la différence des Porto, on rajoute l'alcool après la fermentation. Donc il s'agit de vins secs mais fortifiés. C'est un DO, dénomination d'origine en Espagne. Il y a en réalité trois, parce qu'il y a Xerez, il y a Manzanilla, qui est la partie très côtière avec une très forte influence de l'Atlantique. C'est là où l'Atlantique et la Méditerranée se rejoignent presque, près de Cadix. Et Manzanilla, c'est près de Sanlúcar de Barrameda, qui est le port du Guadalquivir, qui débouche là, l'estuaire, sur l'Atlantique. Donc on a une très forte action de l'iode, qui donne un parfum assez salin à ces vins-là. Et ensuite, il y a une autre appellation en Andalousie, pour les mêmes styles de vins, qui est Mantilla Moriès, qui est plus à l'intérieur, au sud de la ville de Córdoba. Cordoue, si vous préférez en français. Alors, ces vins-là sont faits très majoritairement à partir d'un seul cépage, le Palomino, qui s'appelle réellement le Listan, Palomino Blanco, parce qu'il y a aussi le Palomino Nero, il y a une version noire qu'on trouve beaucoup aux Canaries. Et le Listan est un cépage plutôt neutre, sans grand intérêt, sauf là, pour faire ses vins fortifiés. Il a la capacité de résister très bien à la sécheresse, parce qu'on est sur un sol très crayeuse. C'est un peu le champagne, mais dans un climat beaucoup plus sec que le champagne. C'est un climat vraiment du sud de l'Espagne, avec ces brumes matinales qui rafraîchissent un peu. Donc on cueille les raisins très tôt pour vinifier un vin sec, faiblement alcoolisé, 11 degrés en moyenne. Ensuite, on va observer ce qui se passe dans la barrique. Et selon ce qui se passe dans la barrique, sans ouillage, un peu comme un vin jaune dans le Jura, on va voir si la flore, cette voile bactériologique, se produit sur la surface ou non. Si elle se produit, ça fait une espèce d'auto-protection contre l'oxydation. Et on va fortifier très faiblement pour pas détruire la flore à 15-15,5 degrés. Donc on va rajouter un vin sec, un peu d'alcool pour monter le degré, pour le protéger, mais pas pour tuer la flore. Si la flore est trop faible ou si elle baisse, cette flore, elle pousse d'une manière irrégulière selon l'année, quand il fait en général humide, c'est-à-dire au printemps, à l'automne, vous avez la flore qui se développe très fortement, vous avez jusqu'à 1,5 cm de cette espèce de voile blanche, c'est assez impressionnante, et si elle baisse trop fortement, vite, on va la fortifier jusqu'à 18 degrés, et ça prend un autre chemin d'oxydation. Donc on appelle les vins de flore les finaux, la famille des finaux, et les vins de non-flore, la famille des oloroso, qui veut dire parfumés, hein, qui vont s'oxyder très fortement et qui sont plus forts en alcool à 18 degrés. Après, il y a beaucoup de sous-catégories. Ces deux styles sont des vins secs, l'un très oxydé, donc pas blanc, ambré en couleur, et l'autre blanc et très pâle. Les finaux, il faut les boire plutôt jeunes, sur la fraîcheur. Or que les oloroso, parfois, vieillissent très très longtemps, 5 ans, 7 ans, 15 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend de la qualité. Après, on peut modifier ces deux styles de base en rajoutant un vin sucré qui fait avec un autre cépage qui s'appelle le Pedro Jiménez, PX pour faire court, PX, qui est un cépage à la base blanc, mais qui s'oxyde très fortement et qui se concentre en sucre parce qu'on va le sécher, et la couleur est marron, mais vraiment marron foncé. Si on fait un vin, et ça existe, des PX purs, la couleur est brun foncé. Et c'est très sucré, jusqu'à 300-350 grammes de sucre par litre. C'est le plus sucré des vins que je connaisse. Alors, ces deux styles diamétricalement opposés, les très secs et les hyper sucrés. Et si on mêle les deux, on va produire un vin plus ou moins sucré. Et ça, c'est des vins qui ont été faits commercialement pour le marché anglais, qui s'appellent les cream. Il y a le pale cream à base d'un fino. Ensuite, il y a le medium cream, etc. Alors, je voulais vous lire quelques citations d'un grand monsieur qui a fait la pub pour Xérès au XVIIe siècle. Il s'appelait William Shakespeare. Et dans les bouches d'un de ses personnages...
Il jouait dans quel club, lui?
Alors, il jouait, à mon avis... Alors, ce personnage-là, Falstaff, il jouait en première ligne, ça c'est certain. Pilier, à mon avis. Alors, voilà ce que Falstaff dit. Un bon Xérès a deux effets. D'abord, il monte au cerveau. Il éloigne les tristes et sottes pensées qui l'enténèbrent. Il délie la langue et l'esprit, ensuite il réchauffe le sang et chasse la pusillanimité et la couardise. Un peu plus loin, il dit, si j'avais un millier de fils, ce Falstaff, le premier principe que je leur inculquerais, ça serait de fuir les breuvages sans force et de s'adonner au Xérès.
Avec modération.
Donc, dans le cas de Falstaff, c'était sans modération. Hein.
Merci beaucoup David Cabot, de fin de ce numéro 621 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve toujours en public et délocalisé à Paris au bar à vin restaurant Nicolas, 31 Place de la Madeleine, dimanche à 15h. D'ici là, suite du week-end sur BFM Business, et surtout, respecter la plus grande des modérations.